Bonjour à tous et à chacun. Nous sommes très heureux de vous revoir, heureux d'être à nouveau ensemble pour louer le Seigneur et pour méditer sa parole. Pendant notre absence à Minorque, nous avions bien sûr aussi le privilège de partager la communion fraternelle avec l'église de Mahon, qui a un beau témoignage dans cette île, mais nous sommes particulièrement reconnaissants d'avoir notre famille spirituelle de l'église de Nîmes. Comme cela vient d'être évoqué, nous avons, dimanche dernier, été ensemble et nous avons entendu une méditation sur l'espérance. Et ce matin, je souhaite continuer sur ce thème et aborder cette question qui est tellement vaste, tellement belle, et qui peut être bien sûr abordée de différentes manières qui sont complémentaires. Et pour cet objet, je vais vous lire, ou je vous invite à lire avec moi, un passage de l'Ancien Testament que nous trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 17. Je lis quelques paragraphes du chapitre 17 du livre de la Genèse. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit : Je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. Abraham se prosterna, la face contre terre, et Dieu continua de lui parler. Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras l'ancêtre d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, père éminent, mais Abraham, père d'une multitude. Car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants. Et je te donnerai d'être à l'origine de diverses nations. Des rois même seront issus de toi. Je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance après toi, de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays de Canaan où tu vis maintenant en étranger et en nomade. Il sera votre propriété pour l'éternité. Je serai le Dieu de ta descendance. Et un peu plus loin. Dieu dit encore à Abraham, « Pour ce qui concerne ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, ma princesse, désormais son nom sera Sarah, princesse. Je la bénirai et je t'accorderai par elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra la mère de plusieurs nations, des rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. » Alors Abraham se prosterna de nouveau la face contre terre. Et il se mit à rire en se disant intérieurement, « Et quoi ? Un homme centenaire peut-il encore avoir un enfant ? Et Sarah, une femme de 90 ans, peut-elle donner naissance à un enfant ?» Et il dit à Dieu, « Tout ce que je demande, c'est qu'Ismaël vive et que tu prennes soin de lui. » Dieu reprit, « Mais non. C'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac. Il a ri. J'établirai mon alliance avec lui pour l'éternité et avec sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, j'ai aussi entendu ta prière en sa faveur. Oui, je le bénirai. Je lui donnerai aussi de très nombreux descendants. Je le multiplierai à l'extrême. 12 princes seront issus de lui et je ferai de lui l'ancêtre d'une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, le fils que Sarah te donnera l'année prochaine à cette époque. Après avoir achevé de parler avec Abraham, Dieu s'éleva au-dessus de lui. Abraham est un des personnages les plus importants de l'Ancien Testament. Il bénéficie de la notice la plus développée dans les portraits des héros de la foi de l'auteur de la lettre aux Hébreux. Il est explicitement appelé le père des croyants. Nous prendrons donc en considération ce matin l'étude de ce grand ancêtre, l'attitude d'Abraham face à la promesse de Dieu, selon les textes de Genèse 17, et dans une deuxième partie, ce que dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains. D'abord, la parole de Dieu à Abraham. Dieu s'adresse à lui à plusieurs reprises. À commencer par l'appel à partir de son pays d'origine, Ur en Chaldée, puis de partir de la deuxième étape qui est de ce Ur en Chaldée jusqu'à Haran en Mésopotamie et puis finalement de Haran jusqu'à Canaan. Car le but, c'est d'amener Abraham à Canaan, le pays que Dieu voulait lui donner. C'est l'appel de Dieu et c'est la promesse de Dieu. Dès l'appel, Dieu dit à Abraham, « Je te bénirai, je te donnerai une descendance nombreuse et je bénirai cette descendance. Tu seras un objet de bénédiction pour d'autres nations, pour d'autres peuples. Et finalement, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Quand Dieu appelle Abraham et qu'Abraham entend cet appel et y obéit, Abraham a 75 ans. Plus tard, la promesse est renouvelée. Nous aurions pu lire à plusieurs reprises ce que le texte de l'Écriture nous rapporte. Au chapitre 13, par exemple, nous lisons « L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. » Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Si l'on peut compter les grains de poussière de la terre, alors on pourra aussi compter ta descendance. Lève-toi et parcours le pays en long et en large, car je te le donne et je te le donnerai. Regarde et parcours le pays dans toutes ses dimensions. Et nous avons aussi une autre intervention de Dieu qui est rapportée au chapitre suivant, le 15e. L'Éternel s'adressa encore à Abraham dans une vision. « Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel, je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Éternel Dieu, que me donneras-tu ? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Éliézer de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui parla en ces termes, « Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. c'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. » Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, « Contemple le ciel et compte les étoiles si tu es capable de les compter. » Et il ajouta, « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. » Abraham fit confiance à l'Éternel, et à cause de cela, l'Éternel le considéra comme juste. Plusieurs étapes dans cette révélation du dessein de Dieu pour Abraham, plusieurs paroles qui lui sont adressées. Et dans ce dernier texte que nous venons de lire, nous avons exprimé enfin une autre réponse d'Abraham que celle qu'il a donnée jusque-là. Jusque-là, il a écouté Dieu, il s'est prosterné, il a adoré. Et voilà que là, soudain, Abraham répond à Dieu. Et il exprime à Dieu sa perplexité devant l'apparente contradiction entre la promesse de Dieu parlant de donner le pays à sa nombreuse postérité et la réalité du fait qu'Abraham n'a pas d'enfant. Alors il nomme son héritier Éliézer de Damas, selon la coutume de l'époque. Mais Dieu renouvelle sa promesse. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui naîtra de toi qui sera ton héritier. Ta postérité sera nombreuse comme les étoiles du ciel. Abraham eut confiance en l'Éternel qui, à cause de cela, le considéra comme juste, ou lui imputa cette foi à justice. Ça signifie que Dieu a considéré qu'Abraham était en complet accord avec la volonté de Dieu, puisqu'il adhérait par la foi au projet de Dieu. Et ici, je m'arrête un instant, simplement pour constater à la fois cette continuité, cette réalité de la promesse de Dieu, et à la fois cette acceptation d'Abraham, et en même temps sa perplexité pour essayer de comprendre comment les deux réalités se conjuguent, celle de la promesse et celle du fait qu'il n'ait pas d'enfant. Et c'est au terme de ce dialogue, c'est au terme de ce débat, qui continuera d'ailleurs, que nous constatons que Dieu approuve, apprécie, accepte la foi d'Abraham comme étant en parfaite concordance avec ce projet de Dieu pour lui. Il y a donc une sorte de cohabitation possible entre la perplexité et la foi. Mais pourquoi nous étonnerions-nous de cette cohabitation, puisque nous sommes humains, puisque nous sommes imparfaits, puisque nous sommes de cette nature qui fait que, voilà, il y a des questions, il y a des choses qui sont difficiles à conjuguer, à comprendre ensemble, à mettre dans une même logique. Nous aurons l'occasion d'y revenir encore sur cette réalité-là. Et puis, il y a le cas de Sarah qui va venir aussi à l'intérieur de ce débat. Bien sûr, elle est concernée au premier plan. Le temps est passé, les années se sont écoulées et la promesse n'est toujours pas accomplie. Le temps de Dieu n'est vraiment pas le même que le temps des êtres humains, et de très loin. Sarah, la femme d'Abraham, qui souffre de ne pas avoir donné d'enfant à son mari, a l'idée de proposer à Abraham de prendre sa servante comme femme et d'avoir ainsi un enfant par son intermédiaire. C'était une coutume de l'époque, attestée dans plusieurs documents anciens, comme le Code d'Hammurabi. Saraï pense ainsi résoudre son problème par ses propres moyens, malgré la promesse de Dieu. Ce qu'Abraham accepte, Et à 85 ans, ça fait 10 ans qu'il habite dans le pays de Canaan, à 85 ans, il a un enfant avec Agar, servante de Sarah. Ce fils sera appelé Ismaël. Mais on n'est pas encore au bout du chemin. 13 nouvelles années s'écoulent. Et Abraham arrive à l'âge de 99 ans. Nous avons lu le récit au chapitre 17. Et Dieu vient à nouveau vers lui pour lui parler. La promesse se précise par l'établissement d'une alliance. C'est l'engagement de Dieu. Dieu procède ici au changement de nom. Abraham, père éminent, sera désormais appelé Abraham, père d'une multitude. Puis il procède à l'institution de la circoncision comme signe de l'alliance. Puis Dieu change le nom de Saraï en Sarah, de ma princesse, Abraham, en princesse, celle qui va donner naissance à une nombreuse descendance. Et de nouveau s'exprime la perplexité d'Abraham. Nous l'avons dit. On pourrait penser qu'il y a une contradiction entre l'expression de sa foi approuvée et appréciée par Dieu et l'expression de sa perplexité et des solutions qui lui semblent à lui les seules possibles. Il n'y a pas de contradiction. C'est la réalité dans laquelle vit Abraham à ce moment-là et de tout ce temps qui s'est écoulé depuis la première version de la promesse. Il arrive à 99 ans. Un temps considérable s'est écoulé. Et la promesse n'est toujours pas réalisée. Et puis il y a eu cette naissance d'Ismaël. Il y a la confiance, il y a la foi, il y a les questions, il y a les actes humains qui sont là et qui interviennent dans cette histoire. Et c'est vrai que en relisant cette histoire d'Abraham, que vous connaissez certainement depuis longtemps, et arrivé à ce stade, je pensais à cette parole de cet homme du Nouveau Testament qui a amené son enfant malade à Jésus et qui lui a dit « Si tu peux quelque chose, Seigneur, agis pour guérir mon enfant. » Et Jésus lui a dit « Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. » Et vous savez ce que cet homme a répondu ? Je pense que vous connaissez aussi cette parole, elle est très connue. « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Combien de fois nous avons, nous aussi, dit cette parole. « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Alors, quand Dieu lui renouvelle la promesse, Abraham rit en lui-même. Sarah rira aussi de son côté, en elle-même. Naîtrait-il un fils à un homme âgé de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, peut-elle donner naissance à un enfant? Et Abraham dit à Dieu, « Tout ce que je demande, c'est qu'Ismaël vive et que tu prennes soin de lui. » J'ai eu un enfant, c'est Ismaël. Bien, écoute, si tu veux accomplir ta promesse, passe par lui. J'admire à la fois la liberté d'Abraham qui parle ainsi à Dieu et qui lui dit sa solution à lui. Mais Dieu lui dit non. Non. C'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac. Il a ri. Et Dieu prend même en compte dans sa promesse cet élément tellement humain d'un sourire de doute, d'incrédulité, de perplexité. Et il le donne comme nom au fils qu'aura bientôt Sarah. J'établirai mon alliance avec lui pour l'éternité et avec sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, j'ai aussi entendu ta prière en sa faveur. Oui, je le bénirai et il aura aussi une nombreuse descendance. Mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplira. Et donc, nous connaissons la suite de l'histoire. Et effectivement, un an après, Sarah a mis au monde son fils Isaac. Et maintenant, je voudrais venir à ce qui est dit dans le Nouveau Testament, à plusieurs endroits, mais nous prendrons ce qui est dit dans la lettre de Paul aux Romains. Et je voudrais lire avec vous quelques versets au chapitre 4 de la lettre de Paul aux Romains. Prenons l'exemple d'Abraham, dit justement l'apôtre Paul, l'ancêtre de notre peuple selon la descendance physique. Que pouvons-nous dire à son sujet ? Quelle a été son expérience ? Alors je n'aborderai pas tous les thèmes qui sont abordés par l'apôtre Paul dans ce texte, mais je passe directement au verset 13. Car la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, non parce qu'il a obéi à la loi, mais parce que Dieu l'a déclaré juste à cause de sa foi. Et nous rejoignons ici ce thème très important sur lequel il faut dire quelques mots, de la justification par la foi. La justification, nous l'avons définie comme cette conformité de l'être, de la personne humaine qui entre dans la foi avec, vis-à-vis de Dieu, cette conformité avec le dessein de Dieu, avec le plan de Dieu, avec les pensées de Dieu. Et Dieu déclare juste par la foi Abraham et ceux qui sont dans la descendance de la foi d'Abraham. L'héritage a été fait à Abraham et la promesse de recevoir ce monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance parce que Dieu l'a déclaré juste à cause de sa foi. En effet, s'il faut être sous le régime de la loi pour avoir droit à cet héritage, alors la foi est sans objet, la promesse est annulée, car la loi produit la colère de Dieu. Mais la promesse se trouve confirmée à toute la descendance d'Abraham, pas seulement à celle qui est sous le régime de la loi, mais aussi à celle qui partage la foi d'Abraham. Il est notre Père à tous, comme le dit l'Écriture. Je t'ai établi pour être le Père d'une multitude de peuples. Placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La foi saisit la réalité de ce que Dieu est et de ce que Dieu fait. Il a mis sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tel est notre Dieu, telle est la foi d'Abraham, telle est notre foi. Espérant contre toute espérance, il crut en la promesse de Dieu. Espérant contre toute espérance, il prit. Il crut à la promesse de Dieu. Toute la réalité humaine lui interdisait d'espérer avoir encore une descendance. Espérant contre toute espérance, il crut. Et il est ainsi devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit, ta descendance sera nombreuse. Et voyez que l'apôtre Paul reprend aussi la perplexité d'Abraham, qui cohabite avec sa foi. Il considéra son corps, qui était comme mort, il avait presque 100 ans, et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie, et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Nous sommes au cœur de notre propos. La différence par rapport à ce que nous avons lu dans l'Ancien Testament et le cheminement qui est fait aussi bien par Abraham que par le croyant, c'est que même si cohabitent, se débattent, se combattent dans notre cœur, parfois à la fois la confiance en Dieu et la perplexité ou des éléments de doute ou d'interrogation ou des choses que nous ne comprenons pas, il y a une possibilité pour que la foi soit plus forte que la perplexité. Abraham se fortifia dans la foi, ou se fortifia par sa foi. Et par cela, il fut l'héritier de la promesse et il fut le père des croyants. Loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Et je continue ma lecture de Romains 4 et le début du chapitre 5. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Or, si cette parole « Dieu a porté sa foi à son crédit » a été consignée dans l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham. Elle nous concerne, nous aussi. Car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Puisque nous avons donc été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais fermement établis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Je vous relis ce texte qui est vraiment très important. Nous tirons même fierté de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Voilà l'exemple d'Abraham. Et voilà notre participation à cet exemple d'Abraham. Il a trouvé sa force dans la foi. Il n'a pas douté malgré tout ce qui formait son présent, son quotidien. Dieu l'a déclaré juste et a porté cette justice à son crédit. Et nous-mêmes, qui sommes concernés, nous aussi, la foi nous sera portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Nous voici donc, nous aussi, les objets de la promesse, les bénéficiaires de la justification par la foi, les heureux qui ont reçu la grâce du pardon, établis par elle dans la possession de la vie éternelle et l'espérance d'avoir part à la gloire de notre Dieu. Comme Abraham, face aux réalités du monde présent, en but aux épreuves de la souffrance qui sont le lot de l'humaine condition ou les agressions d'un monde de pécheurs, nous pouvons connaître des perplexités. Jésus nous a promis sa présence pour nous accompagner dans le combat de la foi pour faire face à ces difficultés. La condition des croyants, la condition des chrétiens, la condition des fidèles, c'est de connaître la tribulation. De nombreux textes de l'Écriture nous le rappellent. Nous ne pouvons pas échapper à la tribulation, à la détresse, et à cause de notre condition humaine, et à cause du péché qui est dans le monde. Paul veut dire que le croyant met sa fierté en la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans les épreuves et dans les souffrances, le croyant ne met pas sa fierté dans le fait de souffrir et de considérer que ses souffrances méritent compensation. Ça, c'est une pensée qu'humainement parlant, on peut avoir. J'ai beaucoup souffert, alors j'ai droit à beaucoup de considération, parce que j'ai beaucoup d'épreuves et beaucoup de douleurs. Mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela qui permet de s'affermir dans la foi et dans l'espérance. On ne peut pas non plus tabler sur les efforts que le croyant ferait pour surmonter les épreuves et les souffrances, efforts qui pourraient, dans cette pensée, lui attribuer quelques mérites. Non. Toute l'assurance du croyant est dans la grâce de notre Dieu, dans l'amour que Dieu a versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cette bonté de Dieu, cette miséricorde divine, cette grâce acquise par la mort de Jésus-Christ et cette espérance acquise par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Cette grâce qui se déploie d'autant mieux que l'homme reconnaît sa faiblesse et sa totale incapacité à se délivrer lui-même de la souffrance et de la détresse. Par rapport aux promesses du Seigneur, il peut nous arriver d'être assaillis de questions. Revenons à Abraham. Revenons à la promesse à laquelle il a cru. Revenons à ce que Dieu a promis, qui n'est pas forcément ce que nous aurions aimé qu'il nous promette, ou peut-être même à ce que nous croyons qu'il a promis. Revenons à ce qui est fondamentalement révélé dans l'Écriture, l'œuvre parfaite de l'amour de Dieu, de sa grâce en Jésus-Christ. Saisissons cette réalité, fortifions-nous dans la foi, dans les promesses de Dieu, et saisissons pour l'éternité l'espérance qui nous est donnée par la foi en Jésus-Christ. Souvenons-nous d'Abraham. Comme lui, trouvons notre force dans la foi et notre courage dans l'espérance. Rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen.